Bonsoir tout le monde, bon jeudi, bienvenue à cette édition de Parlons-nous, que vous soyez à Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau, Québec, on vous salue, très heureuse de vous retrouver et ce soir, on est dans le sérieux. En fait, on vous pose une question assez sérieuse. Avez-vous déjà eu peur de perdre le contrôle? Évidemment, on fait référence au drame qui est survenu en début de semaine du côté du secteur Arrivida à Saguenay, où un père a complètement perdu le contrôle. Mais la perte de contrôle, Maxime Lachance, ça peut se faire dans de différentes façons, pas nécessairement comme un drame comme celui-là, là, mais ça peut être, comme tu disais, on parlait de violence, que ce soit sur la route, exact. Rage au volant.
Rage au volant, ça peut être au travail aussi.
Oui.
Les relations avec les collègues, dans le couple également. Et Pierre nous a écrit, lui, revient sur l'histoire de Saguenay, nous dit « C'est incompréhensible pour moi. J'ai eu des idées suicidaires, mais jamais au grand jamais l'idée de m'en prendre à mon fils ne m'a passé par la tête. Au contraire, ce qui a fait que je n'ai pas passé à l'acte, c'est quand je pensais à lui. Mm. Un père doit protéger ses enfants. C'est la chose la plus importante. Un jour, la fierté de voir ce qu'il est devenu est la plus belle récompense. » Merci Pierre pour votre message. À Montréal, 514-790-9850 pour nous joindre. Il y a de la place sur les circuits. 1-866-790-9850 partout au Québec. Messagerie texte 98985. Avez-vous déjà eu peur de perdre le contrôle? C'est la question qu'on vous pose ce soir.
Moi, je vais te dire, moi, quand j'ai eu mon garçon, qui était tout petit bébé, puis je me souviens dans les cours prénataux, tu sais, avant que tu accouches, bon, on t'informe comment tu dois agir, puis tout ça, des conseils, des trucs pour les futurs parents. Puis on avait dit, tu sais, si jamais le bébé pleure trop, là, tu le laisses dans son petit lit, dans sa bassinette, tu sors de la chambre, tu fermes la porte. Puis moi, je me disais, voyons donc, ça m'arrivera pas, tu sais, je vais pas venir à capoter parce que mon enfant pleure. Mais à un moment donné, quand l'enfant a des coliques puis il pleure sans arrêt, cette perte de contrôle-là, j'ai failli, tu sais, dans le sens où je me suis dit, j'ai pris le truc, j'ai mis mon bébé dans sa bassinette et je suis sortie de la pièce parce que j'étais toute seule à ce moment-là.
Il y a la fatigue.
C'est la fatigue
mentale, tu n'as pas d'énergie
exactement.
En plus.
Mais c'est ça. Mais perdre le contrôle, des fois, ça peut arriver rapidement pour certains parents qui malheureusement perdent le contrôle ou certains conjoints qui perdent leur contrôle. Bref, c'est le sujet de notre question de ce soir. Puis je vais te laisser aller. Il y a déjà des gens qui t'appellent, Maxime.
J'y vais.
On va discuter tout de suite avec Manon Monastès. Elle est directrice de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. On va parler de la perte de contrôle avec Madame Monastès. Bonsoir.
Bonsoir.
Mais dans un premier temps, je vous souhaite une bonne année 2022 en espérant qu'elle sera meilleure que celle de 2021 parce qu'au niveau des femmes qui ont perdu la vie, notamment dans des contextes de violence conjugale, ça a été une année record, l'année la plus meurtrière depuis 2008. Je pense qu'on a eu 26 décès l'année passée de femmes qui ont perdu la vie. Alors, Madame Monastès, justement, les femmes qui se retrouvent dans vos maisons d'hébergement, ce sont des femmes qui ont été victimes de pertes de contrôle comme ça de la part de leur conjoint.
Écoutez, je vais rectifier un peu le tir. Quand on est en contexte de violence conjugale, c'est vraiment des rapports de domination et de pouvoir du conjoint sur la conjointe. Mm-hmm. Alors, c'est au contraire, on ne doit pas parler de perte de contrôle,
okay,
mais de prise de contrôle. Parce que ce que veut le conjoint violent, c'est d'avoir le contrôle absolu sur sa conjointe. Et quand on en arrive au féminicide, c'est qu'il a l'impression qu'il n'aura plus ce contrôle absolu sur sa conjointe. Et il passe au féminicide parce que dans leur tête, ils pensent comme si elle n'est pas avec moi, elle ne sera avec personne.
Mm-hmm.
Et c'est pour ça qu'en contexte de violence conjugale, la plupart des féminicides, et il ne faut pas oublier aussi les filicides, un conjoint peut décider de tuer ses propres enfants pour priver de sa conjointe d'avoir ses enfants. Alors, et c'est exactement à quoi il pense. Il dit, si moi je n'ai plus le contrôle, si je n'ai pas le contrôle absolu sur tout ce que ma conjointe fait, sur ce que mes enfants font, je vais les tuer parce que je ne veux pas perdre cette emprise sur ma conjointe et mes enfants. Et c'est pour ça que quand il y a une séparation, c'est le moment le plus dangereux, c'est quand les femmes quittent avec leurs enfants ou elles quittent un conjoint qui a le plein pouvoir sur elles.
Mais dites-moi, Madame Monastès, les femmes qui vont faire un séjour dans une maison d'hébergement comme ça, est-ce qu'elles y vont une fois, deux fois, trois fois? Ça peut prendre combien de séjours avant que la femme quitte, par exemple, le conjoint violent?
Ben, écoutez, dans nos statistiques, on peut dire que il y a moins de 10 % des femmes qui vont retourner avec un conjoint violent. Puis il faut comprendre là-dedans ce qu'on appelle le cycle de la violence conjugale, où il va y avoir une montée de tension, il va y avoir ensuite des événements de violence. Après ça, ce que fait le conjoint, parce que ce sont des grands manipulateurs, c'est qu'il va culpabiliser sa conjointe, lui dire justement de lui donner l'impression qu'il a perdu le contrôle parce qu'elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça, les enfants ont été turbulents, elle n'est pas rentrée à la bonne heure. Et par la suite, ensuite, il va avoir une remontée de la tension, puis il va aussi s'amender. Il va dire, je le ferai plus, je vais aller en thérapie, je vais aller chercher de l'aide, je vais changer. Et là, bien sûr, la conjointe pense que il va s'améliorer. Et là, on retourne dans une montée de tension, et c'est ce cycle-là qui est difficile à quitter pour une conjointe, parce que tout de suite après des événements de violence, le conjoint va faire en sorte qu'il va s'amender ou il va culpabiliser sa conjointe pour lui dire ben c'est de ta faute si j'ai usé de violence physique. Mais aussi il faut dire que la violence a plusieurs formes. Souvent, si les conjoints violents ont absolument le contrôle absolu sur leur conjointe, et là, quand je parle de contrôle absolu, ça veut dire qu'elle ne pense plus par elle-même. Elle va penser selon ce que son conjoint veut, va porter ce que son conjoint veut, va faire absolument tout ce qu'il veut. Alors, quand il y a un contrôle comme ça, ça commence par la violence psychologique, la violence verbale, la violence économique. Ouais. Ce sont des femmes qui peuvent arriver en maison d'hébergement et qui travaillent, qui ont un salaire, qui travaillent et qui n'arrivent avec rien dans les poches.
Donc, le contrôle du compte de banque est fait et tout ça.
Oui, il y a un compte. Quand je parle de contrôle, c'est un contrôle absolu. Ça veut dire contrôler les pensées, contrôler. Ce sont des hommes qui ont un contrôle absolu, là, qui mettent des trackers dans le téléphone, là, des puces qui vont
savoir GPS, les allées et venues,
tout ça. Savoir exactement. Ils vont appeler 20 fois au travail pour savoir qu'est-ce qu'elle fait, avec qui elle parle. Ce sont des femmes, quand ils sont au travail, c'est les personnes qui ne vont jamais dans les 5 à 7, ne vont jamais dans les fêtes. Alors, ça qu'il faut comprendre en violence conjugale, c'est que c'est pas une perte de contrôle. Ils vont pas disjoncter, au contraire, et c'est qu'ils veulent maintenir cette emprise à tout prix. Et ça, il faut bien le comprendre. Alors, quand ils tuent aussi ces hommes violents, ils le font pas sur un coup de tête, à ce qu'on pense, là, mais ils le font vraiment, c'est très réfléchi. C'est tout est planifié. Alors, on a déjà vu, et nous, on le voit, là, parce que je fais partie aussi d'un comité de travail sur les décès en contexte de violence conjugale avec le coroner. Alors, on étudie tous des anciens cas où il y a eu des féminicides, des filicides, où des enfants ont été tués, la conjointe a été tuée. Et souvent, comme dans un cas particulier, et il faut toujours penser que c'est par vengeance qu'ils le font. Un père texté, justement, un père qui était violent à la fois avec sa conjointe et ses enfants, il l'a texté justement avant de mettre fin à ses jours et ceux de ses enfants. Il a texté la mère et il lui a texté « Tu vas voir ce que c'est que de pas avoir ses enfants, de ne plus être avec ses enfants. Oh, » Et quelques heures plus tard, il a commis l'irréparable, il s'est tué, il a tué ses enfants.
Madame Monastès, quand on parle de filicide, est-ce que ça arrive, selon vous, que ça se passe dans une famille où il n'y avait pas de violence conjugale, ou généralement l'un va avec l'autre?
Ben oui, oui, il y a d'autres raisons où ça peut être une problématique de santé mentale, une toutes sortes de problématiques, mais en contexte de violence conjugale, de violence familiale, c'est toujours lié à un contexte de violence. Quand, comme je vous le dis, la violence physique va être utilisée, et là on va jusqu'à tuer, à commettre des meurtres, parce que les autres formes de violence ne vont plus être efficaces. Quand la violence verbale, la violence, il faut parler aussi de violence sexuelle, et de violence verbale, de violence psychologique n'est plus efficace, on passe à un autre niveau qui est la violence physique. Et c'est toujours dans le but de maintenir un contrôle absolu sur la conjointe. Il faut pas oublier que c'est aussi des pères qui exercent un contrôle absolu sur leurs enfants aussi.
Manon Monastès, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directrice de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Merci pour votre éclairage également.
Ben, merci à vous.
Merci, bonne soirée. Et la question qu'on vous pose ce soir, avez-vous déjà eu peur de perdre le contrôle? On a plusieurs commentaires qui sont entrés, notamment sur la messagerie, Maxime.
Oui, elle parle, on revient sur notre invité. Elle parle beaucoup des hommes, mais j'ai vécu avec la mère de ma fille, est exactement comment elle décrit, pas juste les hommes. Donc, Alex, ce qu'il dit, c'est que lui l'a vécu, mais à l'inverse. Et justement, c'est pour ça qu'on a invité Robert Cazelet, il est directeur du programme. On va lui parler dans quelques instants, là. Donc, on vient de parler à quelqu'un d'une ressource pour femmes, on va parler de quelqu'un pour les hommes, ressources pour hommes. Il y a quelqu'un qui nous dit moi, ma femme est partie avec mon fils de 2 ans pendant qu'on était en pause avec tout ce qu'il y avait dans la maison avec. Mon ex-conjointe était très agressive et explosive. Donc, il y a des témoignages également de l'autre côté. Il y a quelqu'un, Martin, qui nous dit lui, c'est au travail qu'il a presque perdu le contrôle en étant infirmier auxiliaire. Là, les circuits sont pleins. Il y a beaucoup de gens qui veulent témoigner ce soir. Valérie, avez-vous déjà eu peur de perdre le contrôle? 514-790-9850 pour Montréal. 1-866-790-9850 et texto 98985.
On va poser la question à Sonia qui est au bout du fil. Bonsoir, Sonia.
Bonsoir.
Alors, de votre côté, est-ce que vous avez déjà eu peur de perdre le contrôle?
Oui, justement. Moi, mon fils, je l'appelle ma petite bombe explosive parce que, dans le fond, les deux parents sont TDAH.
Okay.
Donc, en 2 ans et demi de vie, il était tout petit, il a osé se faire frapper 2 fois sur des boulevards. Ça fait qu'à un moment donné, une maman toute seule avec 2 enfants, mon autre fille, ma fille était tranquille, mais mon garçon, là, écoutez, il était pas tenable. Ça fait que, tu sais, je le savais en moi-même, en dedans de moi, que j'allais finir par le perdre, le contrôle. Donc, à ce moment-là, j'ai demandé au papa. J'ai pas attendu que la DPJ arrive à ma porte.
Non, c'est
ça. J'ai été porter mon fils à son père parce que je le sais en dedans de moi que je vais y faire du mal peut-être plus tard. Fait qu'alors, j'ai pris les procédures pour, et puis c'est lui qui l'a gardé avec lui après ça, ensuite.
Pendant combien de temps? Est-ce que c'était une pause ou finalement vous êtes dit non, moi je peux pas, je suis pas capable?
Non, c'est jusqu'à majorité, je lui ai laissé. Je savais que j'étais pas équipée. Moi-même, j'ai besoin de médication.
Okay.
Puis à ce moment-là, j'étais vraiment jeune, j'avais comme 22 ans, là j'en ai 44. Alors, c'était vraiment, vraiment pas facile. J'avais pas l'appui du père non plus. Le père riait de moi-même.
Ah oui, hein?
Fait que là, moi, pendant des années, j'ai passé pour la méchante, mais dans le fond, j'ai protégé mon fils. J'allais faire ma job de mère.
Ouais, puis Sonia, de reconnaître ses limites aussi, c'est...
Exact.
C'est bon.
C'est exactement ça. Puis c'est ça que les gens, ils ont beaucoup de misère à faire. Pourquoi je bois? Pourquoi je sens le besoin de boire à tous les soirs? Il faut que j'aille creuser. Tu vas juste en sortir mieux. Puis pour les femmes battues, je suis une ancienne femme battue. Et oui, malheureusement... Toutes les raisons sont bonnes pour battre sa femme.
Garder le contrôle.
C'est malheureux à dire. Et puis, les anciennes pancartes qu'ils mettaient pour les enfants, là, enfants secours
oui,
ou quelque
oui,
chose
oui,
comme ça.
Oui, parents secours, oui.
Ben maintenant, là, c'est femmes secours qu'il faudrait mettre dans nos fenêtres.
Oui, vous avez raison. Vous avez raison.
Et je vous le dis, là, j'ai plein de frissons en vous le disant parce que des fois, là, quand que vous entendez brasser en bas, ben quand que le monsieur s'en va, là, allez donc la voir, la madame. Arrêtons de ne pas se mêler des choses qui nous regardent.
On pourrait sauver des vies.
Ben, mais hein?
Ouais. Merci beaucoup, Sonia, de votre appel.
Elle attend juste ça, que quelqu'un y tende la main, je le sais.
Clairement. Le message est lancé. Merci, Sonia.
Merci beaucoup, bye-bye.
On a Eric qui est là. Bonsoir, Eric.
Bonsoir, madame.
Alors, de votre côté, est-ce que vous avez déjà eu peur de perdre le contrôle?
J'ai failli perdre le contrôle. C'est il y a quand même beaucoup d'années, là.
Mm-hmm.
Et ça m'a tellement marqué que j'ai pris sur le fait ma conjointe avec qui j'ai vu un enfant. Et puis mon meilleur ami que j'ai basé dans ma maison.
OK.
Il voulait sortir, mais moi j'ai pas sorti parce que je voulais être avec mon fils. Ça me tentait pas. Et puis quand ils sont revenus, ils étaient mettons dans un état second, hein.
Mm-hmm.
Et puis un moment donné, elle était couchée à côté de moi, ben, mais tu dois aller aux toilettes. Bon, OK. Et puis pourquoi, je sais pas, mais je me rappelle que mon fils était dans notre chambre parce qu'il faisait très froid dans la maison. Et j'ai été pour aller. À un moment donné, je suis revenu à ce saut et puis j'ai constaté qu'il n'était pas aux toilettes. Et la porte d'en face, c'était celle de mon meilleur ami qui était là.
Qui était rendu dans l'autre appartement.
Oui, je l'ai hébergé. Et puis, quand j'ai ouvert la porte, ben, je n'ai pas rien sur le fait.
Mm.
Et puis,
ça vous fait encore mal, Éric?
Quand j'ai dit, là, ils ont comme arrêté.
Mm-hmm.
Et puis, quand il est sorti, c'est la seule fois que j'ai donné une claque sur la gueule à une femme dans ma vie.
Ah oui.
Et puis, elle s'est retournée, elle a été dans notre chambre. Et là, j'ai perdu la carte. J'avais un couteau dans les mains, mais j'étais pour passer à l'acte. J'étais pour les tuer les deux. Et heureusement, mon fils était là.
C'est ça.
Parce que, il a dit, papa, et c'est là que j'ai revenu.
Donc, votre fils vous a sauvé la vie à vous aussi, Eric, à travers tout ça. Hein? Sauver la vie de sa mère, mais sauver votre vie aussi.
Oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui battent des femmes. C'est vrai que je suis un pro femme, moi. Hein? Mais je peux vous dire que je peux pas comprendre pourquoi on s'attaque aux enfants, ni nous aux femmes, mais je peux vous dire que ça fait très mal. Et aujourd'hui, ça fait 35 ans de ça.
Ah oui.
J'ai jamais oublié ça.
Ça s'entend, Eric. Merci beaucoup. Merci de votre partage. Merci de nous faire confiance, de vous raconter comme ça. Bonne soirée.
Merci, madame.
Ouais, c'est pas un témoignage évident. Ça fait 35 ans, c'est incroyable, hein? Puis on sent à quel point c'est encore vif. On va discuter avec Robert Cazelet, notre second invité ce soir. Directeur général du Centre d'intervention et de recherche en violence conjugale et familiale. Bonsoir, Robert.
Bonsoir, Madame Leboeuf. Vous allez bien?
Ça va bien, vous?
Oui, bien oui, malgré les circonstances. Hein?
Et quand on écoute un témoignage comme celui-là, on ne peut pas faire autrement que d'être bouleversé. Là.
Vous avez raison. Nous, chez nous, on est depuis 1982 qu'on travaille avec les hommes qui ont tendance à être violents et c'est peut-être 15 000 gens qui sont venus chez nous. Et je peux vous dire que c'est jamais drôle. Jamais drôle.
Parce que dans le cas d'Éric, son enfant était présent au moment où il aurait pu commettre l'irréparable. Mais il y a des hommes que vous avez peut-être traités puis qui, malheureusement, ont posé des gestes?
Ben, en fait, oui. Par contre, nous, on n'a pas eu de personnes qui auraient tué. Là. Nous, okay. Notre clientèle, elle est celle qui vient nous voir soit parce que la loi les force à venir nous voir ou ils prennent le choix de venir chez nous justement parce qu'ils se sentent pas adéquats. Et donc, on n'a pas vécu depuis 40 ans cette difficulté-là. Mais moi, et vous savez, lorsqu'on lit qu'il y a des gens des femmes qui sont tuées, qui se font tuer, c'est certain que c'est absolument épouvantable pour tout le monde, incluant chez nous.
Mais c'est bien de savoir qu'il y a des hommes qui se rendent compte par eux-mêmes, finalement, puis qui décident d'aller chercher de l'aide.
Oui, ou parfois, comme je dis, ils sont obligés de venir.
Ouais.
Mais en général, lorsqu'ils viennent et puis lorsqu'ils vont jusqu'au bout de la psychothérapie, ça leur permet très souvent de faire des changements dans leur comportement. Et ce qui rend les hommes et aussi souvent la famille à être beaucoup plus sereines dans leur vie. Autrement dit, ils sont plus heureux. Bon, ouais. Mais là, c'est vrai que lorsqu'on compare avec un homme qui fait exploser puis que ses enfants sont morts ouais. avec lui-même, bon, écoutez, pour moi, c'est inacceptable et non plus, c'est difficile à comprendre.
Robert Cazelet, directeur général du Centre d'intervention et de recherche en violence conjugale et familiale. Quand on parle de psychothérapie là, pour changer des comportements véritables, parce qu'on parlait avec Mme Monastès tantôt qui nous parlait de la prise de contrôle que l'homme exerce, puis il y a des femmes aussi qui vont exercer une prise de contrôle de leur conjoint. Ça existe dans les deux sens, mais ça peut prendre combien de temps avant de changer véritablement des comportements comme ça?
Écoutez, c'est très difficile à dire. Chaque cas est un cas d'espèce. Mais en général, il y a un changement de comportement lorsque les gens vont jusque nous, on fait des psychothérapies, des thérapies. Ça dure à peu près 14, minimum 14 thérapies. Mais après ça, les gens peuvent rester aussi longtemps qu'ils le veulent. Et donc, à ce moment-là, il y a des gens, justement, qui sont en mesure de faire des changements eux-mêmes et d'aller plus profondément que d'autres. Mais comme je vous dis, c'est pas des gens en général qui sont allés très très loin dans ce, c'est pas aussi loin que ce qu'on entend là.
Ouais, heureusement.
Heureusement, vous avez raison. Et quand je disais qu'on a à peu près 15 000 des gens qui sont venus nous voir. Ces gens-là, la plupart des gens sont beaucoup mieux qu'avant. Est-ce que c'est parfait? Bien sûr que non. L'être humain n'est pas parfait.
Non, non, clairement. Dites-moi, Robert Cazelet, s'il y a des gens qui ont besoin de vos services, comment on peut vous trouver?
Ah bien, ils peuvent nous appeler au 514-270-8462.
Parfait. Robert Cazelet, directeur du programme, directeur général, oui, de programme. C'est un centre d'intervention et de recherche en violence conjugale et familiale. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce soir.
Merci, Mme Leboeuf. Bonne soirée pour vous.
Bonne soirée. On s'arrête un court instant. Ah, on peut jaser avec quelqu'un avant la pause. C'est Olivier qui est là. Bonsoir, Olivier.
Salut.
Alors, vous, de votre côté, est-ce que vous avez déjà eu peur? Je pense que votre radio est ouverte, Olivier. Ça se peut-tu?
Oui, je vous rends désolé.
OK. Parce qu'on vous entend en écho. Est-ce que vous avez déjà eu peur, vous, de perdre le contrôle?
Dans le fond, j'ai presque perdu le contrôle, effectivement, à un moment donné. Dans le fond, moi, je suis un Uber driver à temps partiel. Je suis aux études, dans le fond.
Oui.
Et puis, ça s'est passé il y a quelques semaines avec un de mes clients. Tout se passait bien, à part que le client me semblait déjà pas mal fâché au début quand il est rentré dans mon auto.
OK.
Et puis, soudainement, il a juste commencé à m'insulter pour aucune raison. Fait que là, moi, j'ai essayé de garder mon calme parce que c'est la route, l'hiver.
Ben oui.
Faut rester prudent, si je peux me permettre. Et puis là... Il commence à lever le ton de plus en plus, puis là, il commence à me dire qu'il veut sortir à tout prix, sauf que là, on était sur, pas l'autoroute, mais des grandes routes. Et puis là, j'ai dû commencer à lever le ton, puis j'ai essayé de garder mon calme, sauf que à un moment donné, faut quand même mettre son pied à terre, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Oui, je comprends.
Fait que c'est ça, puis dans le fond, je suis pas mal sûr que cette personne-là était sous l'effet de quelque chose ou qui était juste peut-être un problème ou quelque chose comme ça. Là.
Mm-hmm. Substance fait ou quoi.
Fait qu'au final, j'ai dû m'arrêter à une station d'essence puis sortir de ma voiture de force. Là.
Ah oui? Parce que ça vous arrive régulièrement, ce genre de...
Mais non, pas du tout. D'habitude, c'est totalement au contraire. J'ai des clients qui sont gentils, qui parlent beaucoup. Mais c'était toute qu'une aventure. Fait que depuis ce jour-là, je me suis décidé que j'allais arrêter de faire ce travail à temps partiel.
Je comprends. Ouais, ben c'est ça. De toute façon, il manque de monde partout. Je pense pas que vous allez avoir de la difficulté. Merci beaucoup de votre appel.
Un plaisir.
Et la question ce soir, avez-vous déjà eu peur de perdre le contrôle? On va poser la question à Denis qui est là. Bonsoir, Denis.
Bonsoir.
Alors, de votre côté, est-ce que c'est déjà arrivé?
C'est arrivé que j'ai presque perdu le contrôle. Mon idée, dans ma tête, quand tout ça s'est passé, j'avais beaucoup de pression, beaucoup de colère envers autant mon ex que ma belle famille et tout et tout.
OK.
Puis j'avais beaucoup de misère avec mon ex. Et puis, dans ma tête, je me disais, je veux pas que les enfants souffrent. Si je vais tuer la mère, les enfants vont souffrir. Fait que je vais tuer les enfants, comme ça, la mère, elle va souffrir.
Oh, mon Dieu.
C'est ce genre d'idée-là que j'avais dans la tête. Ça avait plus de sens, ça. J'ai allé suivre une thérapie, j'ai demandé de l'aide et tout. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Je suis pas parfait, mais ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans plusieurs sphères de ma vie. Puis c'est ça, là.
Ça fait combien de temps de ça, Denis?
3 ans de ça.
OK. Puis là, vous sentez que ça va mieux?
Oui, j'ai repris le contrôle, surtout, là. Mais j'ai encore des petits bouts de colère et tout, mais tu sais, je me contrôle, je vois les signes. Ils nous apprennent à reconnaître les signes, les mains moites, le cœur qui bat vite, la face qui est rouge.
Okay.
Et tu reconnais tes signes de la colère qui s'en vient, là. Tu apprends à te calmer, puis à dire, gars, on va se calmer, on met de la musique, on va relaxer, puis on reviendra à ça dans 10 minutes, mais pour l'instant, il faut se calmer. Mais c'est ça que ça prend, parce que sans ça, sérieusement, là, le monde qui font des thérapies, là, les thérapeutes, là, bravo, je vous lève mon chapeau. Si j'en avais 5 sur la tête, je lèverais 5. Là. C'est du monde fantastique, ce genre-là.
Bon, ben Pierre Faubert, mon prochain invité, vous entend, Denis. Je pense qu'on va être content de votre commentaire. Merci beaucoup d'avoir appelé.
Merci, bonne journée.
Bonne soirée à vous. Pierre Faubert, psychologue, quand on entend le commentaire de Denis, bon, faut reconnaître les signes de colère, selon lui. C'est ça, avant de perdre le contrôle, il y a différentes étapes, j'imagine, avant que ça survienne.
Oui. D'abord, je remercie Denis pour ses commentaires. Et aussi, je le félicite autant que Olivier avant lui pour leur introspection. Autrement dit, leur capacité de prendre du recul face à ce qu'ils vivent et donc à ce moment-là de créer une espèce d'espace entre les émotions comme telles ou les sentiments qu'ils peuvent avoir et l'action. Parce que la plupart des gens qui sont violents sont des personnes qu'on dit qui sont passées à l'acte.
Ouais.
Et le passage à l'acte, c'est de passer de l'émotion immédiatement à une action sans l'étape que j'appellerais l'antichambre ou bien, si vous voulez, la chambre de décompression comme on fait lorsque une personne monte trop rapidement des profondeurs en faisant de la plongée avec des bouteilles. Alors donc, moi je trouve que c'est extrêmement important de créer cet espace entre les émotions et les actions. Donc, c'est important de prendre conscience de ça. Beaucoup de personnes sont inconscientes des émotions qu'elles ont, et surtout des émotions que souvent on va appeler négatives, mais qui en fait ne le sont pas. Elles sont des messagères de nos âmes, de nos états d'âme. Mais c'est important de savoir que j'ai de la colère, que je suis enragé, que j'ai de la peur, que j'ai déjà vécu des expériences qui m'ont traumatisé, j'ai déjà été victime de violence. En fait, toutes ces choses-là qui vont faire en sorte que je vais savoir que je serai peut-être un peu plus vulnérable lorsque je suis mis en situation où il y a des déclencheurs. Et donc, à ce moment-là, l'important, c'est de le savoir et puis de retarder en quelque sorte le passage à l'acte.
Mais dites-moi, Pierre Faubert, quand on est dans une situation où on se retrouve tout seul, comme dans le cas de Denis, là, finalement, bon, il est allé chercher de l'aide et tout ça, mais il y a des gens qui peuvent avoir un proche à côté d'eux qui va réussir à les calmer. Mais quand on est tout seul, de se calmer soi-même, c'est pas évident.
Non, c'est pas évident. C'est pour ça que c'est un entraînement. Hein? Autrement dit, les gens qui ont qui ont fait le travail, comme Denis et d'autres personnes, eh bien, ces gens-là vont développer des réflexes. Autrement dit, au lieu de faire un passage à l'acte violent, eh bien, je sens que j'ai une difficulté, que tout d'un coup, là, la tension monte et que je pense que probablement je vais perdre le contrôle. Mais là, c'est de développer le réflexe qui va faire en sorte que, avant de passer à l'acte, je vais passer à l'acte, mais à un acte d'arrêt, un temps d'arrêt. Autrement dit, c'est un peu comme dans un match de hockey, quand ça chauffe trop, eh bien, le coach, il va demander un temps d'arrêt. Mais c'est ça qu'il faut.
Oui. Non. Est-ce que vous diriez qu'il y a des gens qui sont plus susceptibles de perdre le contrôle que d'autres?
Oui, absolument. Écoutez, en me préparant pour la rencontre, là, j'ai réfléchi là-dessus, puis je me disais, oui, voici les types de personnes. Les gens qui sont impulsifs, qui ont justement tendance à faire des passages à l'acte. Les gens qui ont de la difficulté à s'exprimer verbalement. Alors, au lieu de s'exprimer verbalement, ils vont s'exprimer avec des gestes. Des personnes qui sont justement trop rationnelles. Les gens qui sont tellement rationnels, qui sont totalement déconnectés de leurs émotions. Yeah. Fait que c'est l'émotion qui prend le dessus. Les gens qui ont d'autres troubles de ce qu'on appelle des comorbidités, autrement dit, il peut y avoir de la dépression, il peut y avoir des troubles comme des troubles de personnalité limite, il peut y avoir aussi les consommations excessives qui vont faire en sorte que les gens changent de personnalité. Mais il y a des gens qui sont antisociales, qui sont irritables, soit dans la société, au niveau professionnel, et au niveau affectif. Les gens qui sont agressifs verbalement, physiquement, psychiquement, qui vont mépriser les autres. Ça arrive souvent, c'est des hommes qui vont mépriser leur conjointe parce qu'ils considèrent que ces femmes-là sont des objets. Des objets pour satisfaire à leurs besoins, peu importe les besoins, c'est pas juste sexuel, hein, mais non. C'est un besoin pour certaines personnes d'avoir des sentiments de puissance, de toute puissance. Et ce sont des gens qui ont toujours tendance à dire c'est la faute de l'autre. Mm. C'est toujours la faute de l'autre. Et donc, à ce moment-là, l'autre devient un danger. Et c'est pas nécessairement conscient. Là. Les personnes qui ont tendance à la violence, ils vous diront pas tout ça. Mais c'est présent, vous savez. Et souvent, ce sont des séducteurs. Des gens qui sont beaucoup dominateurs, qui sont narcissiques, qui ont peur, justement, de perdre le contrôle. Mais surtout, pas parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle, mais parce que peut-être que quelqu'un va considérer qu'ils ne sont pas aussi bons qu'eux veulent projeter comme image. Ce sont des manipulateurs. Et une chose qui m'a toujours frappé dans tout ça, c'est que il y a beaucoup de femmes qui, malheureusement, se retrouvent du mauvais côté de la relation parce que, inconsciemment ou consciemment, elles ont choisi soit un homme qu'elles veulent changer parce qu'il y a un problème ou quelconque, elles veulent le sauver, ou bien parce qu'elles veulent un protecteur. Mais l'homme qui est protecteur, tendance, il sera protecteur physiquement. C'est comment qu'on va protéger quelqu'un? On va protéger la personne physiquement. Oui. Alors donc, c'est une personne qui va avoir tendance à utiliser le physique pour régler les problèmes. Mm. Alors, c'est un piège dans lequel il y a plusieurs femmes qui peuvent tomber, c'est-à-dire, je veux un homme fort, un homme qui va me protéger, tout ça. Mais oui, mais c'est ce même homme qui est fort et qui veut vous protéger, ou que vous pensez qu'il va vous protéger, mais sera aussi capable d'utiliser sa force contre vous. Vous savez, juste terminer là-dessus, la personnalité, ça se construit. Mm. Ça se construit avec des éléments qui sont, normalement, on espère, solides. Comme une maison. Hein? Si on est dans une zone où il y a des tremblements de terre, on veut qu'on se construise une maison qui va résister aux tremblements de terre. Mais il y a des gens qui ont des personnalités qui ont été mal construites à cause de toutes sortes de drames et de traumas. Et quand le tremblement de terre arrive, eh bien, il s'écroule.
C'est une belle image quand même, c'est assez clair de cette façon-là. Pierre Faubert, restez avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes psychologue. On va aller au téléphone tout de suite avec Alain qui est là. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir. Ben, écoutez, j'écoute ce monsieur-là là, qui vient de nous parler. Mm-hmm. Et je pense que là, on fait des grandes histoires. Là, on va parler concrètement là, de relations. Là. Regardez exemple, là, Elizabeth Taylor, Richard Burton, ok, deux acteurs bien connus là, qui ont été vraiment là, très intenses. Ils sont mariés, ils sont séparés, ils sont tapés sa gueule, ils ont pris un coup. Regardez là, voilà. Moi, j'ai fini mon cours de droit à l'Université de Montréal. J'ai été un gars qui vient d'une très bonne famille. J'ai rencontré une femme formidable, très belle, très gentille, qui travaille dans le domaine de la santé. Et tranquillement, pas vite, j'ai compris que finalement, on venait pas du même coin, puis on venait pas de la même place. Parce que, effectivement, elle venait d'un milieu violent. Ses frères étaient violents. Quand ils sont venus chez moi, j'ai rencontré des gars qui étaient violents, qui aimaient la chasse, les armes, qui aimaient énormément la confrontation. Mm-hmm. Et finalement, j'ai été victime de ça. Et tranquillement, pas vite, j'ai dit, écoute, chérie, là, je pense qu'il faudrait que ça arrête, là. Moi, je veux juste qu'on s'entende, tout ça. Et c'était, oui, ça va bien aller, mais ça allait de plus en plus mal. Et vous savez, quand on s'engueule, c'est pas le problème, c'est pas de s'engueuler puis de monter la tête, là. Je veux dire, là, on s'engueule. Mais quand les voisins appellent la police, ça va être toujours le gars qui va payer pour. Mm-hmm. Les trois quarts du temps, à 90% des chances, là, moi, je suis un avocat criminaliste. Je peux vous dire une chose, c'est les gars qui payent pour. La police arrive, c'est le gars, puis bon. Mais là, à un moment donné, moi, ce qui est arrivé chez moi, là, à Outremont, chez moi, ce qui est arrivé, c'est que finalement, la police est venue 4-5 fois. Et puis, à un moment donné, les policiers, avant d'entrer, ils ont écouté à l'arrière de la porte, puis ils ont dit, finalement, on va cogner. Et puis, ils ont dit, madame, je pense que c'est vous qui avez un problème. Vous êtes hystérique. Vous êtes complètement malade. On vous entend depuis à peu près une demi-heure à travers la porte et puis vous perdez les pédales. Et puis, je vais vous dire, là, je suis encore en relation avec elle.
Ah, pour vrai?
Ça fait absolument. On se parle à tous les jours. On se parle à tous les jours. On se parle, madame.
OK. Non, mais vous êtes en relation, mais pas en relation de couple, là. Vous vous parlez, mais...
Non, on n'est pas... Nous ne sommes pas en relation de couple, mais on est en relation d'amitié et je lui ai toujours pardonné. Et elle le sait qu'elle vient d'un milieu violent. Maintenant, écoutez, je pense que il y a des hommes qui pètent les plombs, il y a des gens qui pètent les plombs, mais si vous regardez là au niveau criminel, là, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent en prison pour avoir aussi commis des actes criminels envers leur conjoint. Il y a des hommes qui ont été battus, il y a des gens qui ont été vraiment là.
Ah oui, c'est sûr, il y en a dans les deux sens, je suis d'accord avec vous.
Écoutez, ça fait plusieurs années, moi là, j'en ai parlé sur Radio-Canada, j'ai fait des papiers dans le Devoir, la presse, et écoutez, là, c'est vraiment... il faut comprendre une chose. Quelqu'un qui a un problème de maladie mentale, c'est pas la même chose. Quand tu prends de la dynamite, tu fais sauter ta maison avec les deux enfants, c'est parce que c'est une chose qui va pas bien.
Clairement.
OK? Mm-hmm. Bon, OK, ben, clairement. Bon, alors, bon. Ça, là, c'est pas tous les gars qui font ça. Là. Tu sais, c'est pas tous les gars qui font ça. Mais maintenant, faut pas mettre les yeux dans le même panier. Tu sais, c'est une relation de couple, c'est une relation de couple. Et puis, quand ça marche plus, ça marche plus. Il y a beaucoup de gens qui veulent essayer de reconstruire leur relation. Puis là, ça prend pas une maudite psychothérapie, là, puis commencer à rencontrer, là. Tu sais, il y a des gens qui disent je t'aime, puis ça. Alors, je viens de vous donner l'exemple. Elizabeth Taylor, Charbert.
Ouais, non, c'est sûr. Merci beaucoup, Alain, d'avoir appelé. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Et la question de ce soir, avez-vous déjà eu peur de perdre le contrôle? On en discute avec Julie, qui est au bout du fil. Bonsoir, Julie.
Bonsoir, Valérie. Je suis contente que vous parliez de ce sujet-là ce soir.
Ah, mais merci. Je vous écoute.
Moi, j'ai été victime de violence conjugale. Je suis avocate. Et je dis ça tout simplement parce que ça peut arriver à n'importe qui.
Ouais.
Je me considère une femme assez intelligente. J'ai été victime de violence conjugale. Et comme le médecin, le docteur ou le psychologue disait, c'est très, très vrai qu'ils sont des grands, grands charmeurs. Très manipulateur, facile à tomber amoureux de ces gens-là. Et la première chose qu'on sait, c'est qu'on on est dans un beau bateau, comme je peux dire. C'est sournois et je me suis retrouvée dans une situation où ma première pensée, c'était « Oh my God, je reverrai plus mes enfants. » J'ai été dévastée, j'ai été vraiment... j'ai fait une grosse dépression par rapport à ça. Ça m'a pris 3-4 ans à m'en sortir, vraiment.
Quand même.
Oui, c'est très difficile. C'est des gens, je trouve, qui sont narcissiques, qui ils ont un but, c'est la manipulation, c'est de pouvoir contrôler son conjoint ou sa conjointe. Et en tout cas, moi, ça a été mon expérience. C'est des petites choses qui arrivaient, mais que vu que j'avais jamais été en relation, dans une relation qui était violente, je voyais pas les signes.
Ouais.
Puis par le temps, je m'en suis aperçue, il était vraiment, vraiment trop tard.
Vous étiez pris dans l'engrenage. Merci beaucoup, Julie, d'avoir pris le temps de nous appeler ce soir, c'est gentil.
Merci. Bonne soirée.
Bonne soirée. On va poursuivre la discussion avec Pierre Faubert, psychologue. Monsieur Faubert, quand on écoute les commentaires des gens, évidemment, la perte de contrôle, ça touche tout le monde.
Oui, absolument. Ça touche les victimes comme ça touche les personnes qui sont les auteurs de ces gestes. Mais la dernière intervenante, elle démontre une chose, c'est que c'est pas une affaire d'intelligence. C'est pas parce qu'on n'a pas d'instruction, c'est pas parce qu'on n'est pas instruit qu'on peut se retrouver soit victime ou même quelqu'un qui devient violent. C'est un problème affectif. C'est pas un problème d'intelligence. C'est un problème d'affectivité et d'émotion. Ce que les gens savent pas, c'est que nos émotions sont inconscientes. Ce qui fait que nous sentions nos émotions, c'est corporel. C'est le corps qui nous dit « Voici que je sens quelque chose ». Mais ça ne veut pas nécessairement dire que je sais c'est quoi exactement.
Ouais.
On peut même être dans une telle situation où on peut se dire, ben non, c'est pas moi, c'est pas possible, ça se peut pas que je sois enragé. Ça se peut pas que je sois que j'ai peur. Ça se peut pas que je me sente menacé. Je suis au-dessus de ça. Mais pourquoi est-ce que les gens vont en arriver à ça? Et donc, ça veut dire qu'ils vont occulter leurs émotions. Ils ne le font pas volontairement. Ils ne le font pas intentionnellement. Ils ne le font pas même consciemment. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se protègent contre une douleur. Mais cette douleur-là, c'est probablement une douleur qu'ils ont subie ou qu'elles ont subie dans l'enfance.
Ouais,
à ce moment-là, on parle de traumatisme infantile.
Pierre Faubert, je vais devoir vous arrêter. Je vous remercie beaucoup. Malheureusement, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci de votre temps ce soir. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes psychologue. Et si vous avez besoin, ben allez chercher de l'aide. Attendez pas. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci aux auditeurs pour leur témoignage. Et je vous laisse avec Martin McGuire et Danny Dubé. Il y a du hockey ce soir. Ouais, le Canadien qui joue contre les Blackhawks à Chicago. Bonne soirée tout le monde.